بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Chefa en islam, la semaine dernière, on avait commenté les versets 34, 35 et 36 dans un premier temps. Ensuite, on avait commenté les versets 37, 38 et 39. Donc la dernière fois, on avait parlé de At-Tammatul Kubra, qui avait déjà été abordé il y a deux semaines. C'est le fracas, c'est la destruction de ce dunya. Et on avait vu que c'était en réponse, un peu c'était comme une réponse aux interrogations des politistes, des Quraysh, qui n'acceptaient pas le concept de fin du monde, qui n'acceptaient pas le concept de mahshar, de résurrection, parce que cela allait à l'encontre de la logique, de l'entendement. Et il y a des rappels pour ces personnes, pour qu'ils réalisent que celui qui les a créés à partir de Al-Adam, à partir de rien, est capable de redonner vie après qu'il ait ôté la vie. Maintenant, si les personnes à qui ce discours s'adresse ne cogitent pas, ne comprennent pas que le Qiyama aura lieu, que la résurrection aura lieu, qu'il y aura l'étape du Hisab, du Mahshar et toutes les étapes qu'on avait expliquées de l'au-delà, que la personne croit ou ne croit pas, de toute façon, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى لَا مَحَلَّ لَهُ. C'est un événement qui aura lieu, c'est là l'organisation de la création d'Allah Azza wa Jal. Allah Rabbul Izzah qui a décidé de créer les cieux, la terre, et de peupler les cieux avec les malaïkas, les anges, de peupler la terre avec les djinns, les génies et les ins, les êtres humains, et qu'Allah Rabbul Izzah a décrété que ces deux races de créatures auront le choix entre l'obéissance et la désobéissance, et qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, a envoyé des prophètes avec des révélations pour faire passer le message du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et l'ordre qui a été donné à chaque personne rattachée à un prophète, chaque membre des différentes communautés, d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, de s'éloigner des waswasa, des insufflations des shaitan, de ne pas écouter le nafs, de ne pas écouter ses pulsions, et donc de faire passer la crainte et l'amour d'Allah Rabbul Izza avant l'amour de ce dunya, avant les pulsions. C'est ce message qu'Allah Azza wa Jal a transmis au prophète. Et Allah Azza wa Jal donc a décrété que le monde s'organise de cette façon, qu'il y ait une succession de anbiya, de prophètes, jusqu'à ce qu'il y aura le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec comme différence par rapport aux autres umam, aux autres communautés, une révélation qui sera protégé par Allah, mahfoud, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun, qui est protégé, qui ne sera jamais changé, falsifié, modifié. Une religion qui est donc protégée par Allah Azza wa Jal, et que notre prophète alayhi salatu wa salam a fait la promesse que ce dîn se propagera en Orient, en Occident, à l'Est, à l'Ouest, comme Allah Rabbul Izzah lui avait inspiré. Et Allah a décrété dans sa clémence qu'arrivait une époque, à un moment donné, il y aura des signes de la fin de ce cycle, le cycle du dunya qui atteindra sa limite, et que après le cycle de ce monde viendra le passage vers le akhira. Et pendant ce passage, juste avant, on va dire que les personnes qui ne vont pas connaître ce passage, ben ces personnes vont mourir et connaître donc le monde dans la tombe, qui est le premier pas vers le monde de al-akhira, le monde de l'au-delà. Et que l'ensemble de la création ensuite connaîtra la destruction de ce dunya et l'étape de la résurrection. C'est At-Tammatul Kubra. Et celui qui était capable, celui qui est qadir de créer l'humanité, comme on l'avait dit la dernière fois, est capable de le détruire en une fraction de seconde. celui qui est capable de créer l'humanité, kun fayakun, par le verbe être, l'ordre d'Allah Rabbul Izzah qui s'exécute immédiatement, ben Allah Azza wa Jal est capable de détruire l'ensemble de la création, l'ensemble de l'humanité, lorsqu'il ordonnera à l'ange Israfil alayhi salam de souffler dans As-Sur, dans la corde. Donc, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى. Ensuite, on a rappelé une étape extrêmement importante, l'au-delà, l'étape de la résurrection, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, lorsque chaque personne se souviendra de son sa'i. Et on avait expliqué que garder à l'image le sa'i entre le Safa et le Marwa, hein, quand vous êtes Safa Marwa, est-ce que vous allez investir, vous allez penser, je vais investir sur le Safa, je vais m'installer, je vais acheter une tente, je vais y mettre ma tente et pique-niquer, je vais prévoir à manger. Là, wallah, tu fais que passer là. Entre les deux montagnes, c'est un sa'i, c'est un passage. Ce dunya, c'est un sa'i, c'est un lieu de passage où on arrive. On va naître quelques instants et puis on va mourir. Mais l'homme se laisse tromper par la conception du temps qui est propre malheureusement à l'être humain. Et notre dîn nous demande de dépasser cette conception du temps et d'adhérer à une conception du temps qui est celle de l'au-delà, celle que notre prophète alayhi salatu wa sallam nous enseignait, celle qu'Allah Rabbul Izzah explique et détaille dans le Coran et qu'on verra dans un instant. Si on a le temps, Inch'Allah, les gens là-haut dans l'au-delà, et qu'on a vu également dans d'autres sourates, ils se posent la question mutuellement, combien de temps avons-nous vécu sur cette terre? Ils ont dit quelques secondes, quelques heures, ou un jour ou deux. Le Coran nous invite vers cette conception du temps. Réaliser que le temps passe très vite. On ne peut pas se permettre de meubler le temps par les péchés, ou alors perdre ce temps qui est bénéfique et qui nous permet de construire notre akhirah. Donc, en ce jour, l'homme va se rappeler, va se souvenir de sa vie. Et comment est-ce que l'homme se souvient de sa vie? Lorsque les livrets de compte seront remis. Donc ça, on avait bien expliqué. On a vu également une des étapes clés, essentielles, les plus effrayantes. Fais salam à tout le monde. À moi aussi. Ça, tu vas bien? Une des étapes les plus importantes de l'au-delà et les plus effrayantes, c'est « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ». C'est bien le verset. Lorsque le Jahannam, l'enfer, sera présenté à l'ensemble de la création, on a vu la réaction. Il le fait vraiment. Barakallah. On a vu que, qu'est-ce qu'on disait? Que, subhanallah, l'ensemble de la création devra affronter cette vision horrible qui est la vision du Jahannam. On avait expliqué que même les Anbiya alayhim salatu wassalam vont être angoissés lorsque l'enfer va expirer, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 fois. Donc, ça c'est l'autre point qu'on a vu la dernière fois. Et enfin, on avait conclu avec ce qui est un chapitre très important. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, de le verset 36-37, on va dire 36 à 39, Allah Azza wa Jal décrit la première catégorie de personnes. Parce que là, on a deux catégories distinctes de personnes. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. On avait expliqué, At-Toriyan, c'est celui qui dépasse les limites. Que veut dire Toriyan de ce verset 36-37 plutôt, فَأَمَّا مَنْ طَغَى. C'est celui qui a délaissé la religion ou qui fait preuve de négligence de la pratique de la religion. Ça c'est donc un manquement, ça c'est donc un mal qui se trouve dans les personnes qui vont se dévier du droit chemin et qui le jour de Qiyamah vont être dirigées vers Fa'idna al-Jahima hiya al-Ma'wa. Parce que la conclusion de cette catégorie de personnes où on cite le Ma'wa, la destination c'est le Jahim, c'est le Jahannam. Donc il y a deux problématique qu'on retrouve chez cette personne, At-Toriyan, la désobéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et Wa'athara al-Hayat al-Dunya, donner préférence au Dunya sur le Din. Et ça, on avait bien expliqué la dernière fois qu'il n'y a rien de pire que la personne qui se trouve à un carrefour et il doit prendre une décision entre le bien et le mal. C'est pas qu'une personne par inadvertance a commis un péché, non. Ce n'est pas non plus une personne qui ne savait pas, par ignorance a commis un péché, non. Ce n'est pas une personne qui a été obligée, à qui on a imposé un péché, non. C'est une personne qui, à tête posée, a pris une décision. Soit j'obéis à Allah Azza wa Jal, soit je désobéis à Allah Rabbul Izzah. On avait donné pas mal d'exemples. On était parti un petit peu loin dans les exemples. On avait donné des exemples très souvent de grands péchés, de kabira, de zina, d'adultère ou d'intérêt ou autre chose. Mais après, on avait donné un exemple que Ibn Uthaymin, rahimahullah, avait cité, qui était quand même un peu choquant. C'était cette personne qui se réveille pour la salat de Fajr. C'est-à-dire, pas qu'il se réveille, mais La personne qui se réveille à l'heure où normalement on se réveille pour la prière de Fajr, qui voit l'heure et qui réfléchit, est-ce que je me lève, je fais mes ablutions et je vais à la masjid, ou alors je me décide de me rallonger, je retire la couverture et je me rendors. Il dit que la personne qui décide de, qui donne préférence à son sommeil, c'est-à-dire qui va suivre son nafs, qui va suivre son instinct, qui va suivre ce que son corps lui demande, et qui va donc donner préférence à son nafs plutôt que ta'atullah, plutôt que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, Ibn Uthaymeen rahimahullah dit que cette personne fait partie de ces gens qui athar al-hayat ad-dunya, qui a préféré le dunya au din. C'est pas uniquement celui qui je préfère investir dans tel domaine plutôt que donner mon argent dans le chemin d'Allah. C'est pas des exemples aussi poussés, c'est le simple choix du quotidien. C'est ça qu'on avait expliqué la dernière fois, on avait beaucoup insisté, et tellement insisté qu'on n'a pas pu emboîter avec la deuxième catégorie de personnes, mais c'est important, quand on a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, on doit faire très attention. On doit faire très attention parce que chaque pas que nous décidons de faire, chaque pas que nous décidons de faire dans le mauvais chemin, c'est un pas qui nous éloigne d'Allah. Et l'éloignement du mauvais chemin, on le construit nous-mêmes, jour après jour, pas par pas. C'est pas que du jour au lendemain on se retrouve totalement égaré. Là, wallah. Il y a des personnes qui, mashallah, sont multazim, sont réguliers dans la masjid, dans la salah, et le dunya pénètre son cœur. Ça peut être un travail, ça peut être des revenus, ou alors l'amour pour une femme. Personne s'est marié, ce qui n'est pas illicite, hein. Il s'est marié, et que peu à peu, il commence à se détacher des a'mal salihah. Son épouse commence à dire que voilà, bon ben, aujourd'hui c'est vendredi et tout, tu as une due journée, fais la prière à la maison. Va pas à la masjid, on passe un peu de temps en famille. Alors que c'est quelqu'un qui, pendant sa jeunesse, mashallah, ne ratait jamais une salah en congrégation. Et que la personne accepte. Il a fait un pas, c'est-à-dire il s'est éloigné légèrement d'Allah Azza wa Jal. Il a donné préférence à l'amour pour une personne plutôt qu'à l'amour pour Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas donner considération à femmes et enfants. Là, wallah. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Le juste milieu, c'est donner le droit à chacun. Dans un hadith, une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam expliquait comment le prophète alayhi salatu wassalam était un homme merveilleux à la maison avec sa femme, avec ses enfants. C'était un père, c'était un mari, c'est quelqu'un qui était au service de sa famille, c'est une personne qui aidait même sa femme pour les tâches ménagères. Mais lorsque l'appel à la prière t'est donné, son visage changeait. Il devenait quelqu'un d'autre et il quittait sa femme et ses enfants pour aller à la masjid accomplir la prière. C'est ça l'identité du mu'min. L'identité du croyant, c'est celui qui sait dispatcher, on va dire celui qui sait distribuer son temps, qui sait gérer son temps entre les actes d'adoration, les ibadah, mais également le droit de la famille. Sans mélanger les deux, sans disproportionner le temps qu'on va accorder aux deux. Parce que le hadith très connu du Mu'akhad, du lien de fraternité, où le sahaba, si je ne me trompe pas, Abu Dhar avait vu son frère en islam, qui ne donnait plus d'importance du tout à son épouse, puis il avait rappelé qu'il y a un temps pour l'ibad, hein, il y a un temps que tu dois consacrer pour toi, un temps pour ton épouse, un temps pour tes enfants, et ainsi de suite. Et cette phrase qui est magnifique, فَعَرْتِكُ الَّذِي حَقٍ حَقَّ, donne à chacun son droit. Donc, le juste milieu, c'est la personne qui est proche de sa famille, mais aux yeux des prières, ce n'est pas négociable. Aux yeux des prières, ce n'est pas négociable. Et il ne faut jamais prendre une pente. Il ne faut jamais faire un pas en arrière et céder. Se dire que bon, ben, cette fois-ci, ce n'est pas grave. Cette fois-ci, je ne ferai pas telle action, ce n'est pas grave. Au contraire, on est en train, au fur et à mesure qu'on prend les décisions d'abandonner les bonnes actions, ou alors que quelqu'un, un ami très proche, un très bon ami, nous dit que, mais écoute, ce soir, juste ce soir, accompagne-moi à tel endroit. Et on sait que c'est un endroit où il y a du haram, il peut y avoir de la musique, ou un endroit où il y a des choses qui ne font, des endroits qu'on ne fréquente pas en temps normal. On n'a pas à se dire que bon, c'est un bon ami, pour une fois je vais l'accompagner, pour une fois il me dit viens, on va, moi je vais boire de l'alcool, mais toi tu bois pas, mais tu m'accompagnes, on discute un peu. Ne jamais faire un pas vers le mal. Ne jamais faire un pas volontairement vers le mal. Ne jamais abandonner une bonne action volontairement. Parce que de cette façon, on s'éloigne nous-mêmes du droit chemin. Donc ne jamais donner préférence au dunya, sur le akhira, ne jamais donner préférence à notre nafs sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, parce que les conséquences, c'est « فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَا هِيَا الْمَأْوَى ». Le verset qu'on a lu aujourd'hui, « وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ». Là, il y a la description des gens qui ont été dans le droit chemin. Et vous voyez la description, il y a mille et une façons. Il y a mille et une façons de décrire les personnes qui sont dans le droit chemin. Si on cite le début du 18e juz Sipara, qui est-ce qui nous le lit ? Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont réussi. Ils ont eu le succès. Qui peut me décrire les qualités des croyants ? Non, en fait, je vais tester les jeunes. Vous n'êtes pas vieux, hein, mais je vais tester les jeunes. Parce qu'on est à 3 mois, 4 mois hein, de Ramadan. Est-ce qu'ils ont démarré leur révision ou non ? En général, c'est Rajab qu'on commence, non ? Allah musta'an. Mais nous, vous avez une page. Une page, c'est-à-dire 12-13 lignes, où on décrit les qualités des croyants. Dans d'autres versets, Wa ibadur Rahman, alladhina yamshuna 'ala al-ardi, et ainsi de suite, on a à peu près une demi-page description qui sont les serviteurs du très clément, du très miséricordieux. Dire, on a pas mal de versets du Coran qui, à travers 8, 9, 10 ayats ou plus, donnent les descriptions du bon croyant, donnent les descriptions du mu'min. Dans ce surat, la description, on va dire, la plus synthétique, mais la plus complète du croyant, se résume en deux points. Ces deux points sont les suivants. Je retrouve le verset. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur. Première qualité, la personne qui redoute, qui craint le jour où il va comparaître devant son Seigneur. Dites-moi très sincèrement, très clairement, qui est-ce qui, depuis ce matin, on est samedi, vendredi, qui est-ce qui, depuis ce matin, a pensé au moins une fois au moment où il sera appelé auprès du tribunal d'Allah Rabbul Izzah pour répondre de ses actions? Qui est-ce qui a pensé au moins une fois? Mashallah. Allah yaftah alayk. Allah t'accorde cette pensée de façon permanente. Allah Rabbul Izzah dans un hadith Qudsi dit en ce sens que celui qui a de la crainte de ce dunya, je lui garantis la tranquillité le jour de Qiyam. C'est-à-dire que le mu'min, le croyant qui vit avec la crainte d'Allah permanente dans son cœur, Allah Azza wa Jal lui garantit l'apaisement, la tranquillité du cœur le jour de Qiyam. Alors que celui qui vit dans l'insouciance, Allah Azza wa Jal lui garantit l'angoisse et la crainte de l'au-delà. La première qualité qui est citée dans surat Al-Nazi'at, dans la conclusion d'Al-Nazi'at, pour décrire les gens qui sont sur le droit chemin et dont l'aboutissement sera fa innal jannata hiya al-ma'wa, le paradis sera alors son refuge. N'est-ce pas là le but de nos a'mal? N'est-ce pas pour le jannah qu'on accomplit des bonnes actions? N'est-ce pas pour le paradis qu'on s'éloigne du haram? Pour le plaisir d'Allah, sans le moindre doute. Mais le plaisir d'Allah est synonyme de jannah, de paradis. N'est-ce pas pour le plaisir d'Allah et le paradis qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on lit le Coran, qu'on ne fait pas les péchés parfois qui nous tentent, qu'on ne regarde pas ce qu'il ne faut pas regarder, qu'on n'écoute pas ce qu'il ne faut pas écouter, est-ce que ce n'est pas pour avoir les récompenses de le Jannah? Bien sûr que oui. Ben là, c'est le but recherché par chaque mu'min, par chaque croyant, obtenir le Jannah. Ben là, on a la réponse. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا الْمَأْوَى. Et le paradis sera alors son refuge. Dites-moi, si Allah Rabbul Izzah, Allah notre Seigneur, donne la garantie, Allah Azza wa Jal révèle ce verset que celui qui a telle qualité et telle qualité, cette personne ira au Jannah. Ne devons-nous pas avoir une conviction ferme que en développant ces deux qualités, assurément nous aurons le Jannah? Ben là, bien sûr que oui. Et les deux qualités de ces personnes, on va dire que ça résume le dîn, ça résume la foi, ça résume la taqwa, ça résume l'identité du musulman. Cette qualité, première qualité, Ça, mes chers frères, c'est essentiel. La personne qui vit dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, la crainte de la mort, la crainte du retour auprès d'Allah, la crainte du moment où on recevra les livrets de compte, la crainte de la façon avant ça qu'on sera ressuscité et avec qui on sera ressuscité. Ça, c'est des questions angoissantes. Ce qui est angoissant, ce n'est pas mes impôts, ce n'est pas les CSG que je vais payer, ce n'est pas ma taxe d'habitation, ce n'est pas tel... Non, wallah, ça c'est du dunya, l'argent, ça vient, ça part. Et des fois, on a beaucoup d'argent, on tombe malade, on ne profite pas de son argent. Tout ça, c'est dunya. Tout ça, c'est garanti par Allah Azza wa Jal. Les vraies questions qui doivent nous angoisser, ce n'est pas non plus « Que vont devenir mes enfants un jour ? Quel métier il fera ? Est-ce qu'il va s'en sortir avec la crise ? Est-ce qu'il aura assez d'argent pour se nourrir ? Est-ce qu'il aura assez d'argent pour payer son loyer ? » Là, wallah, oubliez tout ça. Hein? Subhanallah, Allah Rabbul Izzam nous a créé pour son ibad. Allah n'attend pas de nous qu'on... La subsistance, ça c'est garanti par Allah. Allah Azza wa Jalla a créé un ange spécialement dédié, sa mission c'est d'apporter le rizq, la subsistance pour les créatures, l'ange Isra, l'ange Mikaïl alayhi salam. Ne vous faites pas de soucis, Allah demande de faire des efforts et après c'est Allah qui donne. Tout comme la da'wah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla demande au Prophète sallam de prêcher, prêche, fais l'effort, mais sache que la guider est dans les mains d'Allah. Lorsqu'Allah Rabbul Izzah envoie Moussa alayhi salam voir Pharaon, Allah demande à Moussa d'aller vers Pharaon, de faire l'effort, fait passer le message. Moussa dit, qu'est-ce que je dois dire? En ce sens, Allah Azza wa Jal révèle qu'est-ce qu'il doit dire exactement à Pharaon. Et Allah lui explique également comment tu vas faire passer ce message. De quelle façon? Avec politesse, en considérant la personne en face de toi, ainsi de suite, avec le bon comportement, mais qu'en finalité, la guider dans les mains d'Allah. Donc l'homme prend les précautions, l'homme agit, mais l'aboutissement c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc les vraies questions, les vraies sources d'angoisse, ce sont ces questions-là. Comment est-ce que je vais me présenter devant Allah Azza wa Jal? Si le jour de Qiyam, Allah me pose une question concernant tel péché que j'ai accompli tel jour, qu'est-ce que je vais dire? Ce croyant qui arrive à développer une relation tellement sincère avec son Seigneur, que cette relation touche son cœur, c'est quelqu'un qui est dans le droit chemin. Comment est-ce qu'on peut évaluer, et Allah seul connaît, personne n'est en droit de juger son prochain, ni sur sa tenue vestimentaire, ni sur la longueur de sa barbe, ni sur la couleur de sa peau, ni le nom de sa famille, tout ça, on ne regarde pas. Ce qu'il y a dans le cœur, Allah seul le sait. Comment est-ce que moi, est-ce que je peux juger ma relation avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est uniquement par a'mal al-jawarih? Est-ce que c'est uniquement par les actions que je fais avec mes membres? Prière, jeûne, lecture du Coran, zikrullah, écouter le Coran, regarder, lire le Coran, lire les livres religieux. Certes, ce sont là des signes, mais ce n'est pas tout. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué aux sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, que viendra une époque où il y aura des gens qui vont dire telle chose en parlant des khawarij, des ahlut takfir, le prophète sallallahu alayhi wasallam avait mis en garde les sahaba contre eux. Et le prophète a dit, si on comparait vos actions, vos bonnes actions, avec leurs bonnes actions, ben vos bonnes actions ne vaudraient quasiment rien, tellement ces gens-là, ils accomplissent de bonnes œuvres. Ajib. Le prophète parle aux sahaba. Et effectivement, Ibn Abbas, on sort du sujet légèrement, radiallahu anhuma, à l'époque de Ali, Ibn Abi Talib, est parti voir les khawarij. Et parti voir, il s'était isolé dans une grotte, dans un endroit. Il dit que lorsque je suis entré de leur repère, on pourrait dire ça comme ça, j'ai vu des personnes totalement vouées au culte, à l'adoration, au ibadat d'Allah Azza wa Jal. Il dit que je n'ai jamais vu, Sahaba dit, je n'avais jamais vu des gens faire autant de bonnes actions. On entendait comme un bourdonnement d'abeilles, tellement ils étaient pris dans la lecture du Coran. Il dit que c'était des gens qui avaient des taches, des signes de prosternation énormes sur leur front. C'est des gens qui se consacraient au ibadah, subhanallah, du matin au soir. Mais le prophète m'a dit que par rapport à leur croyance, ils ont dévié du droit chemin. Il dit que celui qui a assassiné Ali ibn Abi Talib, si je ne me trompe pas de version, il dit que quand on l'a capturé, lorsqu'il a été exécuté, jusqu'à avant de mourir, il lisait le Coran. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Quelqu'un il voit ça, dit c'est un grand shahid. Non! on ne peut pas juger uniquement sur les actions. Donc pareil, le but c'est quoi? C'est que nous aussi on analyse notre vie, on analyse nos actions. Ce n'est pas parce que je suis à la mosquée maintenant, ce n'est pas parce que je mémorise le Coran ou que je le lis parfaitement, ce n'est pas parce que je suis descendant de 9 générations de musulmans ou d'une seule génération, ce n'est pas parce que je jeûne ou j'ai été au pèlerinage que, assurément, je fais partie des gens qui sont aimés par Allah, qui sont sur le droit chemin. On ne doit pas se suffire des amal, des actions extérieures. Certes, c'est important. Certaines de ces actions, ce sont des piliers. Donc il faut les accomplir. Mais ce n'est pas tout. Tout va démarrer, tout va commencer du cœur. L'homme se doit, le croyant se doit d'analyser ce qu'il y a vraiment au fond, ce qu'il y a vraiment au fond de son cœur. Si au fond de son cœur, il trouve l'amour pour Allah, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah, le désir de rencontrer Allah, et en même temps l'angoisse de ce maqam, cette situation où il aura à répondre de ses a'mal, que cette personne, alhamdoulilah, se rassure, elle est dans le droit chemin. Parce que son fond est propre et correct. Alors que celui qui multiplie les bonnes œuvres, peut-être même qu'après la salat al-Jumu'ah, il a donné 10 000 euros à tel projet pour la mosquée ou pour la médersa ou pour la communauté. Mais que dès qu'elle a fini de signer son chèque de 10 000 euros ou 50 000 euros, il retourne dans son commerce et voilà, il travaille avec le haram, l'intérêt. Mais il n'y a pas de taqwa dedans. Parce que la taqwa, ce n'est pas uniquement faire plein de bonnes choses, non. Al taqwa, an taj'ala baynaka wa bayna Allah hijab. C'est de mettre un voile entre toi et le mécontentement d'Allah. C'est-à-dire de faire en sorte de ne jamais te mettre dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Le taqwa, le prophète m'a dit, al taqwa, c'est où la taqwa? Qui connaît le hadith? Al taqwa, ha huna. La taqwa, la crainte d'Allah, c'est dedans. C'est dans le cœur que se développe la taqwa. Tout va démarrer du cœur. Si dans mon cœur, si intérieurement, je ressens que j'ai un amour débordant pour Allah Azza wa Jal, que si on me demande de faire un sacrifice pour Allah, je suis prêt à le faire. Si on me demande d'abandonner femme et enfant, d'abandonner mes biens pour Allah Azza wa Jal, je suis prêt à le faire, c'est qu'on est dans le droit chemin. Maintenant, si je me dis que non, j'ai mes acquis, j'ai mon petit confort, aucunement. Je viens à la mosquée, je donne l'argent, mais ne viens pas me demander de quitter ma maison pour aller propager la religion. Non, non, non. J'ai mon confort, j'ai les choses que j'aime, ça je n'abandonne pas. Si on voit que le dunya a pris énormément de place, on a des questions à se poser. Donc, une qualité essentielle, qui fait partie des qualités des gens qui auront cet honneur que Al-Jannah et Al-Ma'wa sera leur destination, c'est celui qui, en permanence, a la crainte d'Allah de son cœur. Et la crainte d'Allah, parce que c'est quelque chose d'assez abstrait. Ça veut dire quoi, la crainte d'Allah? Et on a expliqué un petit peu la différence entre la peur et la crainte. Dans la fin de Abasa wa Tawalla, je ne sais plus, ou alors je ne sais même plus dans quel programme, on avait expliqué que la crainte, c'est un mélange d'amour et de crainte. Quand on dit taqwa, en fait le mot crainte, ce n'est pas la meilleure traduction. Taqwa, c'est un mélange d'amour pour Allah, de crainte d'Allah, ma'al ilm, en connaissant les qualités de notre Seigneur, en connaissant comment Allah est généreux, mais en connaissant également comment est-ce qu'Allah Rabbul Izza peut sévir au cas où on le désobéit. Donc, la notion de crainte d'Allah, c'est pas que j'ai peur si je fais un péché, Allah me détruit. J'ai peur que si je fais tel péché, Allah reprend mes bienfaits. C'est pas ça la crainte d'Allah. C'est pas la crainte de quelqu'un qui va te sévir, parce que c'est pas là la qualité essentielle d'Allah Azza wa Jal. Éprouver la crainte d'Allah, mes chers frères en islam, c'est savoir se projeter en permanence dans l'au-delà. Essayez de faire le parallèle à chaque décision qu'on prend, chaque action que j'accomplis, j'arrive à faire le parallèle avec le Akhirah. Et c'est ce qu'on avait expliqué une fois dans Riyad al-Salihin, dans Al-Ihtisab, c'est quand tu accomplis une bonne action, tu te projettes dans l'au-delà. Je fais cette bonne action et j'ai espoir qu'Allah m'accordera telle récompense, tu y crois ferme dans l'au-delà. Et quand tu es face à un péché, tu te dis que, avant de l'accomplir, si j'accomplis tel péché, comment est-ce que je vais répondre auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal? Et de cette façon, celui qui développe la crainte de ce mawqif, de cette rencontre avec Allah, est-ce qu'il va faire le péché? Non. Celui qui, dans son cœur, a la conviction qu'il rencontrera Allah et qui développe la crainte de ce moment précis, assurément, face au péché, il va prendre les bonnes décisions et il va s'éloigner des péchés. Donc ça, c'est une qualité à développer. Et pour développer cette qualité, ce qui est magnifique avec notre dîn, c'est que l'islam ne nous demande pas d'atteindre un niveau, un certain niveau, avant de devenir muttaqi. Je vous donne un exemple tout bête. Si quelqu'un veut devenir un expert en taekwondo ou alors en boxe thaï ou en boxe américaine, en boxe malgache, ce que vous voulez, peu importe l'art martial, mais tu ne peux pas devenir un maître du jour au lendemain. Boxe mauricienne, nana ? Non ? N'a point ça, hein ? Ils sont gentils, ils ne se battent pas, machallah. Plein de vêtements non plus, vérifiez. On ne peut pas devenir un expert du jour au lendemain. Tu dois passer par, je ne sais pas comment on appelle ça, telle étape, ceinture blanche, pas rouge, jaune, vert, arc-en-ciel, jusqu'à ceinture noire. Ou alors première dan, deuxième dan, ainsi de suite. Ensuite, tu deviens un maître. Ensuite, si tu continues, tu deviens super guerrier avec les cheveux qui montent et tout. Ça, c'est différentes étapes. Yani, du jour au lendemain, tu ne deviens pas un maître. Mais dans notre dîn, ça c'est cette génération qui a regardé des mauvaises choses. Dans notre dîn, ce qui est magnifique, c'est que Allah Rabbul Izza nous donne la possibilité de changer en quelques instants. C'est-à-dire que si tu arrives à faire une rétrospective de ta vie, et de regretter sincèrement ton passif de péché, ton passé d'une manière générale, et tu ressens des remords, et tu regrettes, et tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, et tu fais le niyat sincère, mukhlis, de ne plus jamais recommencer ce péché, et tu prends la résolution, et tu prends les précautions pour ne pas retourner vers le péché, et qu'à partir de ce moment, tu éprouves la crainte d'Allah dans chaque parole, dans chaque fait et geste, à chaque instant, chaque seconde de ta vie, tu penses à Allah Azza wa Jal, Wallahi, par Allah, je jure que la personne devient un waliullah, un proche d'Allah Azza wa Jal, en peu de temps. C'est ça la beauté de notre religion. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ceux qui buvaient de l'alcool, ceux qui brûlaient les femmes veuves vivantes, ceux qui, certains, enterraient les filles vivantes, ceux qui se prosternaient devant les pierres, devant les idoles, ceux qui donnaient leurs biens dans les jeux de hasard. Lorsqu'ils ont lu « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah », ils sont passés d'un état, excusez-moi, de barbares, de personnes qui n'avaient aucun akhlaq, il n'y avait quasiment pas de civilisation, pour devenir les meilleurs des hommes, radiyallahu anhum wa radu anhu, parce qu'il y a eu un changement intérieur qui s'est opéré. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, une fois en parlant d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, aux sahaba, il dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé bi kathratil a'mal, par une quantité de bonnes actions, non. Mais Abu Bakr, parce que les savants disent également que quand il y avait la bataille de Tabouk, Abu Bakr avait amené tous ses biens. Uthman ibn Affan avait amené. Enfin, Omar avait amené la moitié. Uthman avait amené combien ? Si quelqu'un connaît le tiers, je ne sais plus. Mais la fortune de Uthman ibn Affan dépassait de loin ce que possédait Abu Bakr al-Siddiq. Donc, ce n'était pas une question de kilo d'or, du nombre de dirhams, du nombre de dinars. Ce n'est pas que lui, il a donné 50 000 dinars, on va dire en euros pour être plus clair. Lui, il a donné 50 000 euros, donc il est plus pieux que celui qui a donné 100 euros. Abadan. Abadan, jamais de la vie. C'est l'amour pour Allah, le sacrifice, c'est le fond spirituel qu'Allah Azza wa Jal va regarder avec la concrétisation de l'action, bien sûr. Abu Prasam dit qu'Abu Bakr ne vous a pas dépassé par une quantité de bonnes actions, mais par quelque chose qui était de son cœur. C'est-à-dire cette foi, cet amour pour Allah, cet amour pour le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ça que nous devons développer. Et pour ça, il n'y a pas non plus nécessité de faire des études de alim. Il ne faut pas qu'on se dise que ouais, mais si je veux devenir un homme pieux, c'est trop tard. J'ai 40 ans et je suis médecin ou je suis mécanicien, je suis agriculteur, je suis professeur, je suis avocat ou je suis plombier, artisan, ben c'est trop tard. Si je voulais devenir un homme pieux, il aurait fallu que je devienne un fundi, un mufti, un alim, un cheikh, un savant religieux. Donc c'est trop tard. Là, wallah, le ilm va t'aider sans le moindre doute. Mais je veux dire que ce cheminement, ce retour vers Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Quelle que soit la période, ce n'est pas uniquement dans le mois de Ramadan qu'on peut changer, devenir quelqu'un de bien. Là, wallah, n'importe quand, même maintenant. Ce n'est pas uniquement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas forcément un espace géographique précis. Ce n'est pas que si je veux demander Tawbah, il faut que j'aille devant la Kaaba. Si je veux demander Tawbah, je dois être présent au Hajj Arafat. Là, Allah va accepter mon pardon. Abadan. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu te lèves à 4h30 du matin, tu fais deux unités de prière, tu penses à tes péchés, tu pleures, tu demandes pardon, tu fais les niyats de revenir vers le droit chemin. Allah Azza wa Jal est capable d'accepter ta tawba et de faire de toi quelqu'un de bien, de donner tawfir, de te donner la possibilité de revenir vers lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Sans le moindre doute. Donc cette première qualité, ma'aman khafa maqama rabbihi. Ça c'est la première qualité des gens qui auront al-jannah et al-ma'wa, le jannah comme leur destination. Donc ça c'est le verset 40. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant ce Seigneur. Deuxième qualité, wa nahan nafsa 'anil hawa, et préserver son âme de la passion. C'est exactement le contraire de l'autre catégorie de personnes qui donnaient qui donnait préférence sur la vie de ce dunya, qui suivait ses instincts. Là, cette personne, c'est la personne qui dompte, qui arrive à prendre le dessus sur son nafs, sur son ego, sur ses pulsions. Lorsqu'il est face à un péché, il arrive à dire non. Et l'exemple le plus clair, le plus caractéristique de cette réaction, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam explique la situation de cette personne qui sera invitée sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal le jour de Qiyama. Rajulun da'athu, l'homme qui reçoit des avances d'une belle et jeune femme de haute société pour faire le haram et qui dit inni akhafu Allah rabbal alamin, je crains Allah le Seigneur des mondes. Cette personne n'a pas donné 10 000 euros dans le chemin d'Allah. Cette personne n'est pas morte dans le chemin d'Allah. Cette personne n'a pas passé toute sa vie, toutes ses nuits dans le Qiyam al-Layl. Il n'a pas passé toutes les matinées de sa vie dans le Soum, dans le jeûne. Là, Wallah. Ce n'est pas ces actions extraordinaires qui lui ont amené sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyam. C'est une réaction qu'il a pris à un moment donné de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit des avances tous les jours et que tous les jours il dit non. On ne parle pas d'un don juan qui se fait courtiser tous les jours et qui refuse tous les jours. Non, ça peut être une seule fois. En fait, oui, Al-Matloub, c'est une fois. Quelqu'un qui, une fois, durant sa jeunesse, ou Hicham, qui sourit, une personne qui reçoit ce genre d'avance pour le haram et qui dit « Inni akhafu Allah rabbal alamin » Pas parce que tu n'es pas belle, pas parce que je n'ai pas le temps, pas parce que I'm engaged, je suis déjà engagé, pas parce que papa il va y avoir moins par le balcon, nani, grand-mère, c'est toute la tribu habite là-haut, fais gaffe, pas parce que je suis dans un contexte où je... Là, toutes les conditions sont réunies pour... Alors on avait expliqué ça, à Montreuil. On avait bien dit, et l'exemple le plus concret également, c'est Youssouf alayhi salam. Wa ghallaqatil abwab. Un étranger qui n'a pas de statut social, c'est un servant, un serviteur, n'a pas de statut, donc il ne compte pas vraiment pour la société. Il est dans un endroit fermé, où personne ne le voit. Et la personne qui l'invite vers le haram, c'est l'épouse de l'empereur. Donc, elle ne dira rien. Et ceux qui travaillent avec elle ne diront rien. Et elle est une grande beauté. Et Youssouf est magnifique aussi. C'est-à-dire que les conditions du haram sont réunies. Toutes les conditions sont réunies. C'est pour ça que le Coran nous donne les indications concernant le zina, concernant le fait de s'éloigner, comment est-ce qu'on va maîtriser notre nafs. Et ensuite, le Coran te donne l'exemple à suivre. L'exemple, celui qui représente ce combat contre le mal intérieur et qui arrive à dire non et qui choisit l'obéissance d'Allah, c'est notre prophète Youssouf alayhi salam. Donc le prophète salam, c'est cet exemple et c'est l'exemple le plus parlant. Cet homme refuse le haram pour Allah. Quand il y a eu l'opposition entre le nafs, il veut quoi? Le nafs, il veut le haram. Parce que instinctivement, fitra, l'homme est tenté par ce genre de péché bien plus que par d'autres péchés. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus compliqué que Rabbul Basar, que de baisser le regard. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'homme est attiré vers la contemplation du haram. C'est normal. Si quelqu'un dit que c'est pas normal, chaque fois qu'il y a une belle femme et tout, j'ai envie de regarder et tout, pourquoi je suis comme ça? C'est normal, y a akhi. Et surtout à notre époque, on va dire que tu es normalement constitué aussi. C'est tout à fait normal. Mais c'est là le grand combat. Le grand combat, c'est dompter son nafs, avoir le dessus. C'est ce combat-là qu'Allah Rabbul Izzah attend que tu gagnes. Montrer que l'amour d'Allah, c'est plus important que le bonheur de mes yeux, que le bonheur de ce que je vais écouter de mes oreilles, il a réalisé. Ainsi, tout autre exemple en rapport avec le combat entre le nafs et le baissant d'Allah. Donc, quand ce jeune homme reçoit cette, ses avances, il y a d'un côté le poids de son nafs qui l'attire vers ce péché. Et il y a de l'autre côté l'amour et la crainte d'Allah. خاف مقام ربه, cette crainte le jour où je serai devant Allah, qu'est-ce que je vais répondre? Et sa réponse, c'est inni akhafullah. Quand il a pesé le pour et le contre, il a tout de suite compris que le plus important, c'est la crainte d'Allah, et c'est cette crainte d'Allah qui met en avant avec cette jeune fille que je peux pas. Pourquoi est-ce que je peux pas? Regarde ça, ça c'est ma taqwa. Ma crainte d'Allah me dit que je peux pas le faire. Inni akhafullah rabbal alamin, j'ai la crainte d'Allah. Tellement Allah azza wa jalla est content, satisfait de ce jeune homme, de cette décision, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le plus grand honneur le jour de Qiyamah, c'est être à l'ombre de son trône, ce qui est synonyme de tranquillité, d'apaisement, alors que les gens auront, subhanallah, des crises d'angoisse perpétuelles au fur et à mesure que les étapes du Akhirah vont s'enchaîner. Les étapes du Akhirah vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus angoissantes. On commence par la résurrection où chacun est debout. Et dans certains textes, il est dit celui qui trouve assez de place pour poser ses deux pieds sur le sol, c'est déjà quelqu'un de... Il peut s'estimer heureux, tellement le mahshar sera rempli. Mais on est encore debout sur ses deux pieds. Et regardez l'aboutissement. Quelle est la dernière étape de l'au-delà? Oui, As-sirat, le pont. Et le pont, plus fin qu'un brin de cheveux. J'ai plus trop de cheveux. Plus fin qu'un brin de cheveux. Subhanallah. Dire qu'au départ, on va dire qu'on tient encore debout. Mais à la fin, pour tenir debout, il faut vraiment être muttaqi. Parce qu'à la fin, c'est les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs qui restent encore là. Et en commentaire, les muhadithins disent également que c'est uniquement les mu'mines, les croyants qui passent le sirat. Ceux qui n'ont pas la foi, depuis longtemps, ben, l'infini tombé. Ils ont chuté avant même cette dernière étape. Dire que cette dernière étape, vous passez sur un pont aussi fin, vous connaissez la description. Dire que les étapes s'enchaînent, ils deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes, de plus en plus angoissants. Et celui qui était selon du train d'Allah Azza wa Jal, il sait qu'il a été accepté par Allah. Et que quand on est sous l'ombre du trône d'Allah, on ne va pas dans le Jahannam, abadan. Quand on est sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, c'est qu'Allah t'a choisi, t'a élu, et qu'assurément, l'aboutissement c'est le Jannah. Comment ce jeune homme a obtenu cette place? En refusant le haram, par amour et par crainte d'Allah uniquement. C'est-à-dire présence de foi, présence de taqwa dans le cœur. Donc voilà les deux qualités de cette personne. Khafa maqama rabbi, la crainte de rencontrer, de ce moment de rencontrer Allah. Wa nahan nafsa anil hawa, et préserver son âme de la passion. Et cette personne aura comme récompense فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا الْمَأْوَى. En commentaire, elle me fascine également que Udan, bon, vous ne voulez pas forcément parler de ça parce qu'on veut rester dans le sujet. Il dit que le Jannah, il donne quelques descriptions du paradis, donc on va pas y aller dans ce sens, mais juste le hadith de base qu'on doit on doit essayer de mémoriser. Idéalement, ce serait de le mémoriser. Lorsque notre prophète alayhi salatu wa salam nous raconte qu'Allah azza wa jalla dit dans un hadith qudsi, Allah azza wa jalla un hadith qudsi, a'adattu l'ibad as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, rawahu al-Bukhari. Allah Rabbul Izza dit que j'ai gardé pour mes serviteurs pieux, les ibadi as-salihin, pour mes serviteurs pieux, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucun oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur ne peut même pas imaginer. Ça c'est pour le serviteur pieux. Et juste en analysant ce hadith, on doit être capable de mettre ce hadith devant nous, devant nos yeux. On doit être capable de mettre ce hadith devant nos oreilles, de mettre ce hadith devant notre cœur. Quand tes yeux t'invitent à regarder le haram, tu te dis que je préfère ce qu'Allah a réservé pour les ibadihi salihin, pour ses serviteurs pieux, plutôt que regarder ce que le commun des mortels regarde, mu'min, fasiq, kafir, mushrik, mulhid. Tout le monde regarde le haram. Il y a des croyants qui regardent, des croyants pieux qui regardent malheureusement. Il y a des musulmans basiques qui regardent. Il y a le musulman fasiq, pécheur en Dieu aussi qui regarde le haram. Le kafir regarde le haram. Le mushrik, le polythéiste qui regarde le haram. Le mulhid, celui qui, la personne athée qui ne croit pas en Dieu, regarde le haram. Je vais me mettre dans le même panier. C'est-à-dire, Anna wa haoula isawa, nous sommes égaux dans le péché. Là, wallah, Allah m'a promis quelque chose de beaucoup mieux que ça. Ma la aynun ra'at, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. C'est ça que je recherche. Ulou wal himma, se fixer de nobles objectifs et non pas des plaisirs fugitifs. Si on demande à une personne, donne-moi la description de la plus belle femme que tu as jamais contemplée de ta vie. Non, la plus belle femme que tu as contemplée en 2009. Elle dit, d'accord, il y a des fois je ne suis pas sérieux, mais quand même, je ne vais pas me souvenir comment elle était celle-là en 2009, 2008. Ce qui veut dire que le péché s'est fait actif. Allez, j'exagère en parlant de telle année, si on dit ce matin. Personne ne se souvient. Le péché a été accompli, Allah Musta'an. Le péché a été accompli, mais personne ne s'en souvient. C'est-à-dire combien de temps, taladzavta, combien de temps on a apprécié, pardonnez-moi le terme, le péché, tant qu'on le voyait, tant qu'on, quelques secondes, mais les conséquences, c'est d'autres hisab. Et après quelques secondes, est-ce que tu continues à profiter de ce péché? Non, c'est quelques secondes après, c'est fini ça. Il n'y a plus de trace, il n'y a plus de trace du plaisir. Les plaisirs, entre guillemets, qu'on retrouve dans les péchés sont éphémères. Mais les remords, c'est autre chose. Et les conséquences, c'est autre chose. Et en plus des conséquences, ce qu'on peut se priver soi-même, on se prive à cause de ces péchés, ça c'est grave. Parce que quand je fais le choix d'obéir à mon nafs plutôt que d'obéir à Allah Azza wa Jal, je me classe, je me mets dans les tiroirs de ceux qui obéissent à leur nafs, qui préfèrent le dunya aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Comprenez les conséquences. Donc, je mets ce hadith devant mes yeux. Lorsque je vais écouter le haram, le dernier tube de l'été, ou ce que je suis collégien, je suis lycéen, tous mes amis écoutent telle musique à l'école. Ils se passent leur, comment on appelle ça, les casques, les Walkman. Je ne sais pas s'ils sont encore des Walkman, on est un peu arriéré. Ils écoutent ça, ça c'est la dernière chanson de un tel et un tel. Et tu te dis que non, tu mets ce hadith devant tes oreilles. Moi, ce que je veux entendre le jour de Qiyama, c'est ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Je ne vais pas écouter ce que le mushrik, le kafir, le fasiq, le mulhid écoute. Je ne suis pas à leur niveau, moi. Moi, j'ai l'amour pour Allah dans mon cœur. Et donc, je vais écouter ce qu'Allah m'a réservé dans l'au-delà. Lorsque ton cœur te pousse vers le haram, lorsque Shaitan mais ça trompe pour l'insufflation, le waswasa de ton cœur, et que tu es tenté parfois de faire le péché, tu te dis que tu mets ce hadith devant ton cœur, tu te dis que non, moi je ne vais pas pencher pour des désirs aussi vils, aussi bas, moi j'attends ce qu'Allah m'a promis dans le haut, dans l'au-delà, de l'akhira. De cette façon, le croyant, Inch'Allah, il essaie de recadrer ses choix. Il essaie de recadrer ses pulsions, de les contrôler et de faire passer la foi avant ses pulsions. Et on va compléter avec parole magnifique que le Mufassir, Allah yarahamu, il dit que ce Jannah, on n'a pas besoin d'attendre le dénouement du Akhira pour l'avoir. Le paradis, on n'a pas besoin d'attendre le dénouement du Sirat pour l'avoir. Le Jannah, on commence à le goûter sur cette terre. De quelle façon? De quelle façon? Lorsque l'ange de la mort vient reprendre l'âme. La mort, c'est le moment le plus redouté par l'homme. L'instinct de survie, on n'a pas envie de mourir. C'est normal ça. Il y a des gens parfois qui disent que moi je suis prêt à mourir, je suis dans le droit chemin, je suis prêt à mourir. Ils commencent à avoir quelques petites douleurs, ils disent hop, j'ai peur, là je vais aux urgences tout de suite. L'homme a peur de la mort. C'est normal ça, c'est instinctif. J'avais déjà raconté ça dans une autre assemblée. Une fois j'étais à Makkatul Mukarrama, près de la Kaaba. Umrah, près de la Kaaba, je venais d'accomplir Salat et l'imam. Donc avec Mashallah, 100 000 récompenses, après Umrah, les péchés étaient passés. J'allais faire le tawaf, j'ai une douleur violente au niveau du cœur, violente, hein, donc j'ai eu peur. Et tu t'es dit que, Yahri, tu viens de prier, tu as fait le Umrah hier, tu n'as plus de cheveux, Mashallah, tes péchés sont partis. Si tu claques là tout de suite, mais c'est trop bien, mourir devant la Kaaba comme ça, subhanallah. Non, je dis, je ne veux pas, je ne suis pas prêt. C'est l'homme, c'est comme ça, ikhwani fillah. On fait le coq, comme on dit, mais arriver aux portes de la mort, ça c'était pas encore les portes de la mort, mais lorsqu'il y a un petit signe, immédiatement on s'accroche à la vie. Nous sommes faits comme ça, c'est la fitra. Mais dans ce moment aussi, ce moment qui est immanquable, hein, ce rendez-vous immanquable, et ce moment qui est crucial, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que le croyant, il va vivre le moment le plus magnifique de son existence. Alors que d'un regard extérieur, on voit quelqu'un agoniser en train de mourir, on se dit que c'est terrible ce qu'il est en train de vivre, et c'est terrible ce que nous vivons parce que nous assistons à la mort de grand-père ou de grand-mère ou de dada ou de tonton, ainsi de suite. Mais dit que le prophète dit que celui qui va mourir avec la foi, le mu'min, il reçoit la visite de l'ange de la mort. On avait expliqué maintes et maintes fois sous une apparence magnifique. Il dit que la vision de l'ange de la mort serait déjà une récompense suffisante pour ce mu'min. Et l'ange de la mort est accompagné d'un cortège de malaïka, d'autres anges qui lui annoncent la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de toi. Il dit que lorsque le croyant reçoit ces bonnes nouvelles, qu'Allah est content, Allah est satisfait de toi, qu'Allah a accepté, Allahu Akbar, ton passage de ce dunya, ahabba liqa Allah. Il a envie maintenant de retourner auprès de son Seigneur. Et ça, pourquoi le prophète a donné cette explication? Lorsqu'il a expliqué, il a dit, sahaba man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Celui qui a envie de rencontrer Allah, Allah aussi veut le rencontrer. Aisha, al mu'minin, radhiyallahu anha, dit au prophète d'Allah, qui d'entre nous a envie de mourir? Personne n'a envie de mourir. Vous rigolez tout à l'heure. Aisha, radhiyallahu anha, elle fait la même remarque. Il dit, mais personne n'aime la mort au prophète d'Allah. Et là, le prophète va lui donner l'explication qu'on vient de donner. Et là, Aisha comprend, là, les sahaba comprennent que celui qui, au moment de mourir, voit et reçoit la visite des anges et entend la bonne nouvelle, le bishara des anges, cet homme-là, il ne désire qu'une seule chose maintenant, c'est vraiment que son âme monte au ciel. Quitter femme et enfant, famille, bien, plaisir de ce dunya pour retrouver Allah, parce qu'il sait que quand il va retrouver Allah, il va retrouver un Seigneur qui est satisfait, qui est content de lui. Ça c'est le plus haut degré, ça c'est la plus belle des récompenses, c'est la plus belle des façons de concrétiser notre vie de ce dunya, c'est de recevoir la bonne nouvelle des malaïka dans ce dunya. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous accorde cet honneur, qu'on meure à 25 ans, à 40 ans, ou à 75 ans, ou comme à 100 ans, Allah seul le sait, quel que soit l'âge ou les circonstances, la période, l'endroit où on va mourir, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de recevoir la visite des malaïka qui lui annoncent, qui nous annonce la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de nous et que nous sommes heureux de quitter ce dunya et que notre âme monte et se prosterne devant Allah Azza wa Jal, ensuite retourne dans le corps pour répondre, dans la tombe je veux dire, pour répondre aux questions des malaïka et que l'âme reste en paix jusqu'au qiyam. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Mes chers frères, on devait faire un tableau, il y aurait un tableau avec deux entrées. Celui qui est destiné à l'enfer, c'est celui qui désobéit Allah Azza wa Jal et qui fait passer ses désirs avant l'ordre d'Allah. De l'autre entrée, celui qui est destiné pour le Jannah, c'est celui qui en permanence éprouve la crainte d'Allah, la crainte du moment où il va rencontrer Allah Azza wa Jal, et celui qui wanaha an-nafsa 'anil hawa, et qui détourne ses passions et qui se détourne de ses passions pour suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Rabbul Izza nous accorde les qualités des gens qui auront al-Jannah et al-Ma'wa. On va s'arrêter à la prochaine fois inchallah. On voulait compléter al-Nazi'at ce soir, c'est pas possible. On va inchallah compléter la prochaine fois inchallah avec yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, avec les questions que les Quraysh avaient demandé au prophète Ali salat wa salam concernant la fin du monde, quand est-ce qu'elle aura lieu, et ce que Allah Rabbul Izzah va répondre à travers le wahi, à travers la révélation, avec un passage que je l'avais lu il y a 15 jours à peu près et ça m'avait donné froid dans le dos, ça m'avait glacé le sang, lorsqu'il explique différentes personnes qui un matin se réveillent, va au travail et il rentrera jamais, ou une personne qui dit à sa femme avant de quitter la maison, il dit que prépare tel repas pour moi, midi j'aimerais manger telle chose, mais il ne mangera jamais de cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a un maw'id, un rendez-vous avec l'ange de la mort. On va dire que là c'est des cas qu'on connaît, mais il y a un exemple, franchement l'auteur il est costaud, il dit qu'il y a des gens qui le matin ils s'habillent, ils mettent quel que soit les habits, ça peut être thawb, ou alors chemise, pantalon, t-shirt, autre chose, il met tel habit, et ce sont les responsables du bain mortuaire qui vont lui enlever un jour ses habits. Alors ça, franchement, on se dit que on vivra tous un jour cette situation où le matin on s'est habillé, Mais le soir ou l'après-midi ou quelques instants après, les personnes qui vont enlever ses habits, ce ne sera pas nous. Ce ne sera pas nous quand on rentre chez soi pour prendre une douche, pour se changer. Non, ce seront les personnes qui vont nous donner le bain mortuaire, qui vont enlever ses habits, les jeter, les remettre à la famille pour nous mettre dans le linceul. Ça, wallahi, ça fait réfléchir. Ce sont des réalités, ce sont des scènes que nous avons tous déjà vues, déjà vécues auprès de proches ou d'amis qui sont décédés. Et un jour, nous passerons par ces étapes. À nous d'être prêts pour ces étapes. Inch'Allah, qu'Allah nous accepte. Et au cas où si quelqu'un est intéressé, ce mardi, Inch'Allah, c'est un peu loin, on sera à Saint-Louis. C'est très loin, Saint-Louis, c'est à 60 km. Il y a un grand programme, un programme à thème, on pourrait dire, qui a commencé depuis 2 semaines ou 3 semaines, suit à la vie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa naissance, le début de la révélation, la période mécoise, l'émigration, la vie à Madina, je ne sais pas comment ils ont enchaîné ensuite, la vie à Madina, jusqu'à le pèlerinage d'Adjib, plusieurs étapes. Inch'Allah, on fera l'avant-dernier programme, c'est le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son décès. Ensuite, il y aura une autre personne qui va, on va dire, récapituler un petit peu et citer les leçons qu'on doit retenir de la sirah. Donc, ça se fera à Saint-Louis, Inch'Allah, ce sera ce mardi, après la salat al-Isha. Donc, s'il y a des personnes qui sont volontaires, on a des amis à Saint-Denis qui sont prêts à faire du covoiturage. Donc, il y a, Inch'Allah, possibilité. Qu'Allah nous accepte. An rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, zatun musalim.